Il est 19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Dans un instant, votre magazine hebdomadaire, l'Amérique et vous, mais juste avant, les grands points de l'actualité.
Plusieurs chefs d'État d'Afrique de l'Ouest étaient aujourd'hui à Conakry pour un sommet sur la lutte contre l'épidémie de fièvre Ebola. Le point avec notre correspondant à Conakry, Izakaria Camara.
Le bilan de l'épidémie d'Ebola ne cesse de s'aggraver. Plus de 1300 cas sont enregistrés et 729 décès en Afrique de l'Ouest, selon l'Organisation mondiale de la santé. En 4 jours, 122 nouveaux cas confirmés, probables et suspects, ainsi que 57 décès ont été notifiés en fin juillet en Guinée, au Libéria, au Nigeria et en Sierra Leone, a précisé l'OMS. Devant l'ampleur de l'épidémie, un sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Union du fleuve Mano s'est tenu à Conakry vendredi. Les présidents Ernest Bai Koroumia, Ellen Johnson Sirleaf et Alpha Condé, le ministre ivoirien de la Santé et la directrice générale de l'OMS discutent encore à Conakry pour trouver la meilleure façon de lutter contre Ebola. Une conférence de presse est prévue dans les prochaines heures. Conakry, Zakaria Camara pour la Voix de l'Amérique.
En République centrafricaine, calme relatif à Batangafo, dans le nord du pays, après les violences meurtrières entre les anti-Balaka et ex-Seleka. Le point avec Idriss Fall.
Un calme précaire a régné ce vendredi à Batangafo. Les combats ont fait au moins 22 morts, dont 2 soldats de la MISCA et de nombreux civils. Des milliers de personnes se sont réfugiées à la mission catholique à la base de la MISCA et au domicile du maire. Dans un communiqué, les forces internationales ont attribué les hostilités à 2 groupes armés, l'un proche d'un individu qui a longtemps sévi dans le 4e arrondissement de Bangui avant d'en être chassé, l'autre proche d'une personnalité locale connue pour ses excès. Toujours selon le communiqué, les forces internationales ont lancé une opération importante destinée à ramener le calme dans la localité. À Bangui, la tension a été vive ce matin dans le 3e arrondissement. Un groupe de jeunes musulmans a barricadé l'avenue Koudoukou pour protester contre une opération de l'OFOR hier nuit dans le quartier de PK5. Par ailleurs, une nouvelle session extraordinaire du Conseil national de transition s'est ouverte aujourd'hui à la demande de la présidente Catherine Samba Panza. 3 points sont à l'ordre du jour, le récent forum de Brazzaville, la mise en œuvre de la feuille de route et l'élargissement du Parlement provisoire.
En Somalie, un député a été tué dans le centre de Mogadiscio. C'est le 5e député assassiné depuis le début de l'année.
Tremblement de terre à Alger, 6 personnes sont mortes et 420 blessées suite au séisme de magnitude 5,6 sur l'échelle de Richter qui a secoué la capitale algérienne et ses environs.
Guerre civile au Soudan du Sud, les négociations qui devaient reprendre dès cette semaine vont finalement redémarrer lundi 4 août.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le cessez-le-feu dans la bande de Gaza s'est effondré très rapidement. Ce vendredi, on signale des dizaines de morts côté palestinien. Lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche il y a quelques instants, le président américain Barack Obama a demandé la libération immédiate et sans condition du soldat israélien enlevé aujourd'hui.
Plusieurs dizaines d'enquêteurs internationaux ont commencé à travailler sur le site de l'accident du vol 17 de Malaysia Airlines dans l'est de l'Ukraine. Ils viennent des Pays-Bas, de l'Australie et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.
La conférence de presse du président Obama se poursuit à la Maison-Blanche. Il vient de déclarer qu'il s'est entretenu ce matin par téléphone avec le président russe Vladimir Poutine, l'assurant que les États-Unis vont tout faire sur le plan diplomatique pour la solution du conflit, mais les sanctions vont durer si Moscou ne change pas d'attitude.
Les opérations de recherche et de secours se poursuivent dans la ville taïwanaise de Kaohsiung, où des explosions massives de gaz ont fait au moins 24 morts et 270 blessés.
Et la reprise économique s'accentue aux États-Unis. 209 000 emplois ont été créés durant le mois de juillet, selon un rapport du département du travail. Cependant, le taux de chômage a sensiblement augmenté à 6,2%. La cause, disent les experts, plus d'Américains ont recommencé à chercher du travail. Le pays compte en tout 9,7 millions de chômeurs.
Et aux États-Unis, dans l'État du Colorado, les immigrés clandestins peuvent désormais avoir un permis de conduire, même s'ils sont illégaux.
Vous écoutez La Voix de l'Amérique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Washington, avant le sommet USA-Afrique, les chefs d'État, les jeunes leaders du continent ont conféré avec le président américain Barack Obama. Vous aurez droit à un compte-rendu complet avec Nicolas Pineau. Et nous parlerons de corruption, un fléau capable de miner tout effort de développement. Bienvenue à Washington.
L'Amérique et vous, Jean-Roger Billon.
À l'occasion de sa rencontre avec les jeunes leaders africains venus à Washington, le président Barack Obama a annoncé la création de 4 centres régionaux pour le leadership en Afrique. Ils seront basés au Ghana, Sénégal, Kenya et en Afrique du Sud. À partir de 2015, ces centres permettront aux jeunes Africains sélectionnés d'apprendre le fonctionnement des institutions africaines et américaines. Obama, jeune leader africain, la rencontre tant attendue a tenu ses promesses. Elle a comblé les vœux des participants. Nicolas Pineau.
Oui, ils étaient 50 000 à postuler partout en Afrique et les 500 heureux élus ont donc pu venir ici aux États-Unis suivre 5 semaines de formation dans les universités américaines. Monter une entreprise, s'impliquer dans la vie de sa communauté, les jeunes leaders ont appris et pu partager leurs expériences. Ce lundi, ils ont été accueillis par John Kerry, le secrétaire d'État américain.
We're here today because the United States and countries across Africa are natural partners.
Nous sommes ici aujourd'hui parce que les États-Unis et les pays africains sont des partenaires naturels. Et il est temps de passer à la nouvelle étape de ce partenariat en investissant dans la meilleure de toutes les ressources naturelles, ses habitants.
Pendant 80 minutes, les jeunes leaders ont pu dialoguer avec le président américain et lui poser des questions. Bonne gouvernance, renouvellement de l'AGOA ou effacement de la dette, Barack Obama a tenté de répondre sans tabou. Monsieur Obama a surtout loué l'esprit d'initiative de la jeunesse africaine.
Je veux vous remercier car vous êtes notre inspiration par votre talent, votre motivation et votre ambition. Vous avez de grandes aspirations pour votre pays et votre continent et puisque vous construisez cet avenir meilleur que vous imaginez. Je veux être sûr que les États-Unis d'Amérique soient votre partenaire et amis tout au long du chemin.
Sans surprise, Barack Obama a séduit l'audience. Mireille Mouigwa est originaire de Bukavu, en République démocratique du Congo.
Intervention avec Barack Obama, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
C'était un bon discours, c'est un discours promoteur et ça nous promet beaucoup de choses et ça montre qu'ils ont confiance aux jeunes Africains et ils ont confiance à l'Afrique. Et ça montre qu'on va ensemble, on va changer les Congo, on va changer l'Afrique.
Les rencontres vont se succéder toute la semaine pour les jeunes leaders africains. Autre grand rendez-vous pour eux, mercredi, avec le discours de Michelle Obama.
Le programme Washington Fellowship for Young African Leaders, YALI, va être rebaptisé en l'honneur de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. La première dame des États-Unis est aussi allée à la rencontre des jeunes leaders. Michelle Obama a insisté sur la promotion des femmes. Nicolas Pineau.
Oui, cette rencontre était aussi attendue, voire plus que celle de Barack Obama. La femme du président a rappelé le long combat qu'il reste à parcourir pour les filles et les femmes dans le monde. 62 millions de fillettes ne vont toujours pas à l'école, dont 30 millions en Afrique subsaharienne. Au-delà des financements nécessaires, Michelle Obama a surtout rappelé que le vrai débat se situe sur la place de la femme dans le monde.
Even when girls do attend school, they often do so at great risk.
Même quand les filles vont à l'école, elles courent un grand risque. Et comme mon mari l'a dit plus tôt cette semaine, nous savons que quand les jeunes filles ne sont pas éduquées, ça ne limite pas que leur futur, mais elles sont aussi vulnérables à la pauvreté, la violence et les maladies. Et ça limite le futur de leur famille.
Madame Obama a insisté, tout n'est pas négatif et des progrès énormes ont été accomplis en matière d'accès aux soins ou à l'éducation. Elle a aussi salué l'exemple rwandais où les femmes représentent 60% des parlementaires. Un exemple flatteur, mais beaucoup reste à faire. La priorité, selon Madame Obama, est de se débarrasser des traditions barbares.
When girls in some places are still being married off as children, sometimes before they even reach puberty.
Quand dans certains endroits, les fillettes sont mariées de force, parfois avant même d'avoir atteint la puberté, quand les mutilations génitales féminines continuent dans certains pays, quand le trafic d'êtres humains, le viol et les violences domestiques sont encore si communes et les auteurs de ces crimes ressent impunis, on a encore du sérieux travail à faire en Afrique et dans le monde. Ce sont de sérieuses violations des droits de l'homme qui n'ont pas leur place sur Terre.
Michelle Obama a séduit l'audience en affirmant que le combat pour l'égalité est le combat de tous et surtout les hommes. Vital est un jeune entrepreneur béninois.
Oh mon Dieu, cette femme, elle est extraordinaire. Et je pense que si nous pouvons donner assez de force à toutes les femmes africaines, être aussi fortes que cette dame-là, je pense qu'il y aura un gros changement. Je pense personnellement que Barack Obama a eu énormément de chance de l'avoir et qu'il n'aurait pas pu être président sans une femme de ce calibre-là.
Dans la salle, les jeunes africaines s'identifient beaucoup à la première dame des États-Unis. Christelle est originaire de Lubumbashi, au Katanga.
J'ai pensé qu'elle a été vraiment très réelle. C'était vraiment des situations qu'elle a vécues et ça nous a tous rappelé ce qu'on a vécu dans nos sociétés, ce qu'on vit au quotidien. Tous ces problèmes de discrimination liés à la culture, tous ces problèmes de discrimination liés au social, les hommes d'abord, les femmes après, on est tous passés par là. Et vraiment dans son discours, on a senti qu'elle aussi, elle a eu à vivre ce genre de choses et qu'elle est déterminée à faire que les choses avancent exactement comme nous, nous nous battons aussi dans nos pays pour améliorer les conditions des femmes.
Quelques privilégiés ont pu s'entretenir lors d'une réunion privée avec Madame Obama, une rencontre dont ils auront sans doute beaucoup de choses à raconter.
Et la bonne nouvelle, le nombre de participants au Yali va être doublé à partir de 2016 pour atteindre 1000 jeunes leaders formés chaque année. La QV 2014 déborde d'enthousiasme après avoir été reçue à la Maison-Blanche.
Éclat de voix.
Palais Tchassa, République démocratique du Congo.
Je travaille dans un organisme de l'État qui est chargé de la réglementation nucléaire. Oui. Et c'est dans ces cadres-là que nous avons appliqué pour participer à ces forums des jeunes, qui est un programme très très intéressant, une initiative du président Barack Obama. Mmh. Le président a vu que pour aider l'Afrique, il fallait passer par la jeunesse. Mmh. Parce que, dit-on, la jeunesse, c'est l'avenir de demain et que c'est cette jeunesse qui va prendre les choses en main et que demain, on va pouvoir travailler avec les États-Unis par la jeunesse africaine.
Et qu'est-ce que ces jeunes-là que vous êtes, hein, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous pensez de cette idée,
hein? Oui, comme je l'ai évoqué, c'est une première par rapport au rapport entre les pays développés et les pays dits... moins développés, notamment l'Afrique. Vous savez, très longtemps, l'Afrique a toujours été comme un continent qui tend toujours la main et on doit les soutenir. Mmh. Mais avec l'image que veut donner le président Obama avec cette initiative, c'est une façon d'essayer de donner à la jeunesse africaine l'opportunité de pouvoir s'assumer. S'assumer pour que demain plus tard qu'elle puisse prendre en charge la destinée de tout un continent. Imaginez, nous sommes 500 jeunes répartis dans tous les pays de l'Afrique subsaharienne.
Bernadette Ma Ipet, elle est du Mali.
En tant que femme, il y a un message qui m'a vraiment fait plaisir. Le message était « Aucune nation ne peut se développer sans la contribution des femmes ». Donc c'est un message très important pour l'ensemble de nos pays africains, qu'il faut que nos populations et nos gouvernants prennent en compte et prennent conscience du fait qu'on ne peut pas laisser la moitié de l'équipe en dehors du terrain. Donc il faut faire rentrer les femmes et leur donner plus de rôle dans notre société. Mmh. Ça, c'était l'un de ces messages forts. Et l'un des messages pour lequel il nous a fait comprendre qu'il était vraiment qu'il allait faire ce qu'il fallait pour qu'on avance dans ce cadre-là. Mmh. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce programme a été mis en place avant le sommet qui va se passer la semaine prochaine avec nos présidents. Donc, ça a été un peu un moyen de brainstorm avec les universités dans lesquelles on était pour qu'ils aient des éléments, pour qu'ils aient la vision de la jeunesse africaine. Donc, les thèmes essentiels étaient comment investir dans la nouvelle génération, comment investir pour que nous, en tant que nouvelle génération en Afrique, on se sente mieux dans notre société et qu'on puisse avoir un impact effectif sur ce qui se passe dans nos pays. Donc, et nous faire en sorte que nos gouvernants prennent conscience du fait que nos populations sont des populations jeunes et qu'ils nous intègrent plus dans les procédures de prise de décision. Et dans les sociétés civiles, on parle souvent de sociétés civiles, mais une grande partie de nos sociétés civiles sont les jeunes.
Ouais.
Mais ils parlent, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent, mais on ne les écoute pas souvent. Donc, ce serait avoir plus d'impact dans ce qu'on dit et ce qu'on veut. Ça, c'était l'un des messages aussi. Et ils veulent qu'on n'attende pas qu'on nous donne une place et qu'on se batte pour avoir cette place-là.
D'aller chercher.
Il a parlé aussi du commerce et d'un nouvel ère entre les États-Unis et l'Afrique et qu'il espère, et nous, on l'a vu à travers ce programme-là, que l'US Department est très impliqué et qu'ils veulent vraiment faire avancer les choses. Le programme, on n'est pas venu seulement pour un sommet, je tiens à le préciser, on n'est pas venu pour 3 jours. Ça fait 7 semaines qu'on est là. Ça fait 7 semaines qu'on est dans des différentes universités à travers les États-Unis. Donc, ça a été d'abord un cursus universitaire, ensuite un sommet où ce qui est mis en avant, c'est le network. Donc, comme vous parlez de... je ne me rappelle pas du
nom. Anastasie.
Comme Anastasie parlait, Anastasie, c'est vraiment c'est un partenariat durable. Ouais. Mais l'idée est de trouver les personnes qui sont intéressées par nos différents domaines parce qu'il y a 500 Young African Leaders qui sont là. On est tous de domaines différents, de secteurs différents. Donc, l'idée, c'est pas de parler de partenariat dans le vent, mais de trouver des partenariats concrets dans les domaines dans lesquels on travaille. Donc, on rencontre plusieurs personnes.
Mamadou Camara, il est également du Mali.
L'un des points les plus vraiment principaux que j'ai eu à me focaliser personnellement, parce que moi, je crois à l'unité, comme quoi on est plus fort quand on est unis. Et ce programme a donné l'opportunité à 500 jeunes africains de venir passer 7 semaines ensemble, vivre vraiment ensemble, et de développer vraiment ces liens-là et de les cultiver et de partager ces mêmes rêves et de se promettre aussi de réaliser ces mêmes rêves. Donc ça, c'est déjà un point très important qui sort de ce programme. Et l'autre point qui sort vraiment, c'est vraiment on a vu l'engouement de tous les jeunes, que ce soit du Mali, que ce soit en Guinée, que ce soit en Zambie, de vraiment se battre pour un futur meilleur pour l'Afrique, un futur qui incorpore pas seulement la jeunesse, mais tout le monde, y compris les femmes, les personnes vraiment avec les en défaveur en termes de économique ou bien en termes de maladie, de vraiment créer un environnement qui puisse inclusif en fait, qui puisse incorporer tout ça là et promouvoir une meilleure Afrique.
Tous ces Washington Fellows ont été reçus par Roger Moutou dans RM Show.
L'Amérique et vous, Jean-Roger Billon.
En marge des travaux des jeunes leaders africains, un forum sur la sécurité s'est tenu à Washington. L'Afrique est à la croisée des chemins avec les groupes terroristes qui pullulent sur le continent. On retrouve Nicolas Pinault.
Oui, la menace principale pour la sécurité, ce sont bien sûr les groupes terroristes qui opèrent sur le continent. Al-Shabaab, Acmi, Mujao ou encore Boko Haram, ces groupes s'attaquent en majorité aux populations civiles. Et malgré les efforts militaires pour les contrer, force est de constater qu'ils continuent de recruter au sein de la jeunesse africaine. Au Nigeria, les attentats de Boko Haram sont presque quotidiens, une situation qui perdurera tant que les gouvernants ne prennent pas en compte les aspirations de la jeunesse. C'est ce que pense Oluwakemi Okeniodo, directrice exécutive de la Clean Foundation.
The young people
C'est évident, les jeunes ne sont pas satisfaits par le statu quo. Ils requièrent le changement, ils demandent le changement à différents niveaux. Je ne suis pas sûre que le gouvernement les prenne vraiment au sérieux. Ils doivent répondre urgemment à ces demandes des jeunes.
Autre danger pour l'Afrique, le trafic de drogue. Contrairement aux idées reçues, on fabrique, on vend et consomme sur place de la drogue. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, estime à 1,25 milliard de dollars le montant du trafic de cocaïne en Afrique de l'Ouest, soit le double des budgets de la Sierra Leone et du Libéria. Lansanak Berrier est le co-auteur du dernier rapport de la Commission ouest-africaine sur les drogues.
It is a massive problem. In fact, West Africa is a main consumer of marijuana. Some countries in West Africa.
C'est un problème massif. L'Afrique de l'Ouest est l'une des principales consommatrices de marijuana. On trouve des laboratoires pour fabriquer des drogues synthétiques en Afrique de l'Ouest. Il y en a au Nigeria, en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire. L'idée que l'Afrique de l'Ouest est victime du trafic mondial est fausse. Elle y participe.
Les côtes africaines sont aussi le terrain de jeu des pirates qui lorgnent sur le pétrole et autres richesses. Le Bureau maritime international sur la piraterie a recensé pour 2014 133 cas, un chiffre en baisse partout dans le monde, sauf dans le golfe de Guinée. Loïc Mouduma est commandant de la marine gabonaise et expert de la CEAC.
Aujourd'hui, les cibles potentielles des pirates, c'est plutôt les bateaux pétroliers, transporteurs de brut ou de produits déjà raffinés. Ils attaquent ces navires, ils les déroutent. Ils siphonnent tout le produit et ils le revendent au marché noir. On ne peut pas dire que la menace est totalement éradiquée. Actuellement, les États ne sont pas du tout présents en mer. On a toujours un problème de moyens logistiques.
Le trafic d'êtres humains ou encore la contrefaçon de médicaments sont aussi des menaces pour les populations africaines. Autant de sujets que Barack Obama et ses interlocuteurs aborderont la semaine prochaine.
L'Amérique et vous, restez en notre compagnie. Dans un instant, on va à l'assaut d'un autre fléau qui mine l'Afrique. Il s'agit de la corruption.
L'avis du spécialiste.
Et notre invité, c'est M. Nzi Moroni-Kez, président de l'ONG ALACO, African League Against Corruption, la Ligue africaine de la lutte anti-corruption. Avec lui, on fait l'état des lieux.
Vous savez, c'est vrai que le continent africain souffre de beaucoup de maux. Il y a, entre autres, des problèmes de maladies, complicité, les problèmes de VIH, les problèmes de paludisme, qui sont des réalités, effectivement, de notre continent. Mais à côté de cela, il y a un mal qui ronge véritablement ce continent, et ce mal, c'est la corruption. Quelle solution donner à cela? Ça, pour parler comme les Américains, that's the question. Et c'est le combat que nous menons depuis fort longtemps.
Quel est l'état des lieux de la corruption aujourd'hui en Afrique?
Bon, plus on en parle, plus nous avons l'impression que ça augmente. Parce qu'en 2000, lorsque nous créions notre organisation, c'est vrai que les problèmes de corruption étaient des débats, relevaient des débats de salon. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'appui des institutions internationales, il y a des débats qui sont menés, des ateliers qui sont menés, des réflexions qui sont menées, des structures qui sont créées justement pour lutter contre la corruption. Mais malheureusement, il faut faire de constater que ça perdure. Et j'allais dire, tous les aspects de la société qui sont touchés. Il n'y a pas un seul secteur de la société qui est épargné justement du fait de la corruption. On essaie de faire en sorte qu'il y ait une volonté politique. Cette volonté politique doit pouvoir s'afficher à travers un certain nombre d'indicateurs, un certain nombre de structures. Mais malheureusement, quand ces structures sont créées, ce n'est pas toujours qu'on a tenu les hommes qu'il faut justement à la place, à la tête justement de ces structures-là pour combattre véritablement la corruption. Et donc, nous continuons de peiner et nous avons bon espoir. Bon, comme toujours, la vie justement est faite d'espoir. On espère qu'un jour ou l'autre, bien, ce mal-là va pouvoir, même si ce n'est pas pour disparaître totalement, mais si ça pourrait éventuellement être édulcoré pour permettre à nos sociétés de pouvoir vivre.
Est-ce que vous pouvez nous parler des aspects négatifs de la corruption sur le développement?
C'est tout le développement même qui est en péril. Quand vous parlez de corruption dans le secteur de la santé et qu'au lieu de construire un centre de santé, l'argent va dans la poche justement de quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui meurent. Quand vous parlez, vous rentrez dans le domaine de l'éducation, quand lieu et place de créer justement de construire des salles de classe, de recruter des enseignants et que cet argent va ailleurs, vous comprenez que c'est toute une population qui n'est pas éduquée. Ne serait-ce que ces deux secteurs, je ne vous parle même pas de l'agriculture. Imaginez par exemple qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, on peut nous-mêmes produire du riz. Un pays comme la Côte d'Ivoire, je vous dis qu'on peut même produire du riz et même exporter du riz. Voilà un secteur qui peut être bien organisé et qui va pouvoir engager beaucoup de nos jeunes gens aujourd'hui qui sont au chômage. Mais quand vous vous rendez compte que dans ce secteur, il y a des gens qui veulent bien importer du riz parce que ça les arrange, écoutez, vous comprenez que ça ne peut pas marcher. Parce que l'argent qui est destiné à quelque chose ne va pas justement à cet endroit, que cet argent va ailleurs. Il est évident, vous êtes d'accord avec moi, que nous ne sommes pas là pour construire le développement. Je l'ai toujours dit, l'Afrique n'a pas encore pensé son développement. Le jour où on sera vraiment prêt à penser notre développement, il y a beaucoup de choses justement qu'on va le soutenir.
Alors, comment se manifeste la corruption? Quelles sont les typologies que vous attribuez aux différentes façons dont elle se manifeste dans la société africaine?
Bon, pour prendre le cas de la Côte d'Ivoire, vous savez, c'est dans toutes les, dans, comme je le dis, c'est dans tous les secteurs. On va vous donner des expressions du genre « fait nous faire » au niveau de l'administration. Vous allez dans l'administration aussi, vous n'êtes pas le plus offrant, vous n'obtiendrez rien du tout, du tout. Vous allez dans à la justice, c'est pareil. Et c'est ça, c'est d'ailleurs même ça qui est encore plus grave, parce qu'une société où la justice est corrompue, écoutez, vous ne pouvez rien faire du tout, du tout. Parce que si vous ne pouvez pas faire confiance à votre justice pour vous défendre, ça va être vraiment compliqué. Moi-même qui vous parle là, tout récemment, j'ai été victime d'une situation. Je ne sais pas s'il faut que j'en parle, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. J'habite un quartier où nous sommes totalement inondés du fait d'un individu qui a carrément construit sur la voie naturelle de l'eau. Et nous sommes allés en justice et on nous a donné pratiquement tort sous prétexte que le caniveau qui a été réalisé par notre opérateur est sur cette voie. Encore que ce caniveau même a été fermé par notre voisin. Et la justice, bon, vous comprenez? Alors, quand vous êtes face à de telles situations, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Donc, c'est cela. Mais nous espérons. Moi, j'ai toujours dit que je garde espoir. Parce que l'homme est ce qu'il est. La conscience de l'homme est ce qu'elle est. Elle évolue. Et peut-être qu'avec l'évolution des temps, on comprendra un jour qu'on a besoin justement d'être un peu propre, d'être un peu lucide, d'être un peu, je vais dire, cohérent dans les actions que nous menons pour le bonheur justement de notre pays.
Alors, pour la lutte contre la corruption, est-ce que le travail est facilité pour les organisations comme la vôtre pour s'épanouir pleinement dans la lutte?
Non, mais c'est clair que ce n'est pas évident. Quand on vous parle de lutte contre la corruption, à la limite, on vous prend pour un extraterrestre. On n'a aucune considération pour vous, on rit même à vos nez. Nous avons, je vous donne l'exemple de la Côte d'Ivoire. Nous avons demandé, par exemple, qu'il y ait, dans le cadre justement de la volonté politique, qu'il y ait une autorité nationale de lutte contre la corruption. Avec, en annexe, la réalisation de juridictions anticorruption, c'est-à-dire faire en sorte que ces structures-là soient totalement autonomes de l'appareil judiciaire habituel. Bon, on a créé une structure, une haute autorité pour la bonne gouvernance, mais qui est liée à travers le procureur de la République à l'appareil judiciaire. Bon, tout ça, c'est bien, mais écoutez, on ne peut pas avancer avec ces choses-là. Donc, c'est difficile. Encore que même pour mener même nos actions, au plan financier, vous avez même des difficultés. Vous ne pouvez compter sur le financement justement des quelques membres que nous avons. Vous allez où avec cette mobilisation? C'est difficile. Mais je le dis toujours, ce n'est pas une œuvre qui va nous permettre d'obtenir des résultats. Au début, peut-être nous avons rêvé en 2000, qu'on avait pensé que peut-être en un an, deux ans, on allait pouvoir obtenir des résultats. On a compris que c'est une œuvre de longue haleine et que les consciences des gens sont ce qu'elles sont. Les dirigeants, parce que dans tous les cas, si nous voulons avoir des résultats, il faut que nos dirigeants politiques justement donnent des exemples. Ça, on ne peut pas faire autrement. Et c'est pourquoi nous interpellons justement le président Obama. Je ne sais pas par quels moyens vraiment il faut pouvoir amener justement nos dirigeants à comprendre qu'ils ont intérêt à faire en sorte que la corruption, à la limite, même si elle ne peut pas disparaître, qu'elle diminue justement dans le comportement de nos populations. Mais vous imaginez, ils ont tout ce qu'il faut. Nos présidents, nos ministres ont tout. Pourquoi Diendé ne peut pas faire l'effort de se surpasser et permettre à ce que les populations puissent bénéficier réellement des budgets qui sont mis en place? Moi, franchement, je n'arrive pas à comprendre cet égoïsme-là. Je ne comprends pas. Franchement, peut-être que je ne suis pas très intelligent, mais je n'arrive pas à comprendre cela. Mon intelligence humaine ne me permet pas de comprendre cela. Voilà des gens qui ont tout. C'est-à-dire, sur le dos du contribuable, ils ont tout. Mais c'est eux qui sont à la base. On leur demande simplement d'être des modèles pour que les autres puissent suivre. Ça, encore, c'est des problèmes.
Je vous remercie, Monsieur Nzi Moro-Nikez.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle que Nzi Moro-Nikez est le président de la Ligue africaine des droits de l'homme et nous l'avons joint à partir d'Abidjan. Invité de l'Amérique et vous, M. Nzi Moroniquez, le président de la Ligue africaine pour la lutte contre la corruption, état des lieux avant le sommet US-Africa la semaine prochaine. Ce sera tout pour cette édition de l'Amérique et vous, consacrée aux relations Afrique-Amérique. Jean-Roger Billon pour vous servir. Cette émission a été réalisée par Michel Joseph. Bonsoir à tous.